jusqu'à 9h, Good Morning Business.
Et c'est vrai, 7h45, quand on a un petit coup de mou, on invite Bruno Bouygues, le PDG du groupe GIS, parce que c'est vrai que vous avez une manière de voir le monde et l'économie de manière très positive. Toujours merci d'être avec nous, bonjour.
Merci Laure, merci Christophe.
Mais il y a deux sujets sur lesquels vous allez nous remonter le moral. L'énergie, vous dites la crise énergétique, finalement, elle est bien gérée, bien contrôlée, puis elle est bientôt finie. Et puis la Chine va se réouvrir, effectivement, avec la fin des mesures de confinement extrême. Vous êtes optimiste en début d'année?
Oui, je suis très optimiste. On en parlait tout à l'heure. Ça fait 3 ans qu'on traverse une crise finalement très unique. Et finalement, quelles que soient les différentes vagues de la crise, les différents gouvernements en place ont mis en place les mesures pour permettre à l'économie de continuer à tourner. Il y a sûrement une forme d'asymétrie, en fait, entre certaines entreprises qui s'en sortent bien, certains secteurs qui sont moins impactés. Et le nôtre, pour l'instant, qui est un secteur mondial, on arrive toujours à sortir notre épingle du jeu.
C'est-à-dire que vous arrivez à y voir clair, par exemple, sur la manière dont va se réouvrir la Chine dans les prochains mois?
Alors,
vous êtes très présent en Chine, hein?
On est très présent, en fait. Le groupe GIS, on a une très grande usine en Europe et puis une deuxième usine à Shanghai. Et c'est vrai que les 3 dernières semaines ont été absolument extraordinaires puisque on a senti les premiers cas Covid qui sont entrés dans notre usine il y a 3 semaines. C'était le vendredi, je me rappelle très bien, aux alentours, je crois que c'était le 16 décembre. La semaine d'après, on a eu 80% de l'usine qui a été touchée. Et la semaine dernière, on a eu une semaine d'arrêt pour quasiment tout le monde. Donc, on a essayé de travailler du mieux qu'on pouvait. Et ce matin, j'appelais mon patron chinois en venant ici. Il me disait que 90% des collaborateurs étaient rentrés. D'ici la fin de la semaine, tout le monde sera là. Donc, en fait, on a perdu grossièrement une semaine et demie de travail dans l'usine qu'il va falloir reprendre après le nouvel an chinois, le temps de se réorganiser. Donc, on va passer la difficulté sans grand problème, puisque la crise a été très concentrée, très courte. En revanche, en Chine, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que beaucoup de nos fournisseurs ont planifié les vacances du Nouvel An chinois de façon différente. D'abord, le Nouvel An chinois, cette année, très tôt, c'est le 22 janvier. Normalement, on prend entre 1 semaine à 10 jours de vacances en Chine. Et là, on a appelé l'ensemble de nos fournisseurs et beaucoup de nos fournisseurs ont décidé de prendre des vacances plus longues. D'abord à cause des cas Covid et puis aussi avec le ralentissement de l'activité. Surtout pour les entreprises qui sont tournées vers l'international. Donc, les chiffres sont les suivants. On avait à peu près 80 à 90% de nos fournisseurs qui prenaient 10 jours de vacances. Mm-hmm. Là, on a 20% de nos fournisseurs qui prennent plus de 22 jours de vacances.
Ah ouais.
40% qui prennent plus de 2 semaines de vacances. Ouais. Donc on voit bien qu'entre le Covid et un ralentissement de l'activité par des organisations aussi, eh bien, tout le monde a ralenti son activité et je m'attends à un très fort rebond après le Nouvel An chinois.
C'est-à-dire que là, on déstocke là, pendant le mois de janvier, en travaillant moins.
On va consommer des vacances, on s'organise, les vacances du Nouvel An seront un petit peu plus longues. Et après, je pense que d'abord, il va falloir rattraper le temps perdu pour tout le monde. Et deuxièmement, je pense que le gouvernement chinois va mettre en place un plan de relance un peu à l'européenne.
Ouais. Ou à l'américaine.
C'est-à-dire qu'au début du Covid, la Chine, finalement, on a tous regardé ce qui s'était passé pour savoir en Europe ce qu'il fallait faire.
Je pense que
là, c'est l'Europe qui va, enfin la Chine qui va regarder l'Europe et les États-Unis pour savoir ce qu'il faut faire.
L'autre sujet, c'est celui de la crise de l'énergie. Dans les journaux de la matinée, on a essayé un peu d'expertiser. Est-ce qu'effectivement, le cas, par exemple, de William Sorin est un cas isolé? Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont arrêter de produire à cause de la hausse des coûts de l'énergie? Ou est-ce que, finalement, c'est la fin de la crise? Est-ce que le plus dur est derrière nous, selon vous?
Alors, j'ai pas de boule de cristal, comme vous en doutez. Ce qui est sûr, c'est que dans la sidérurgie, dans la métallurgie, le domaine dans lequel on est, juste un fabricant dans la machine-outil, eh bien, tout le monde n'est pas électro-intensif. Mmh. Quand on regarde dans le prix de revient industriel de nos équipements, finalement, le coût de l'énergie représente quelques pourcents du chiffre d'affaires. Et c'est le cas pour la grande majorité. Alors, il y a certains secteurs, l'agroalimentaire, la fabrication de matières premières type la métallurgie, où là, il y a des impacts très forts. Mais la grande majorité de mes clients, aujourd'hui, peuvent supporter ces coûts de l'énergie. Et si on regarde le coût du gaz, qui s'est écroulé. Dans les dernières semaines, alors peut-être que la météo joue pour quelque chose, je trouve qu'on commence au début janvier beaucoup plus positif qu'on commençait le 1er septembre.
Mmh. Donc quand vous parlez à l'ensemble de vos fournisseurs et à ceux qui représentent votre écosystème, vous dites la crise énergétique a été bien maîtrisée, il y a certaines exceptions sur lesquelles on cible un plan, des aides, et pour les autres, ça passe.
La France a fait un travail remarquable avec le bouclier énergétique, plus des mesures spécifiques pour les électro-intensifs. Je pense que la France a été le très bon élève de l'Europe. Il y a d'autres pays dans lesquels on est présent, je pense à l'Italie, je pense à l'Europe de l'Est, je pense à l'Espagne, où là, il n'y a pas eu les mêmes soutiens et où il y a eu des coûts d'accordéon au niveau de l'été, beaucoup plus durs, avec des ralentissements de la demande beaucoup plus forts. Donc je trouve qu'en France, on s'en sort bien. Et d'ailleurs, une maison comme GIS, où on bénéficie de la baisse des coûts de transport, d'une énergie raisonnable en ce moment, fait que, pour la première fois depuis 3 ans, ma liste de prix pour le 1er janvier va être stable. C'est-à-dire que je n'ai pas d'augmentation
de prix. C'est incroyable.
La baisse des coûts de transport d'Asie vers l'Europe, le fait que la conjoncture ralentit fait qu'on négocie mieux avec ses fournisseurs, et donc je redonne du pouvoir d'achat à mes clients à partir du 1er janvier.
Alors on en profite, peut-être que vous allez nous donner une troisième bouffée d'optimisme. Le climat social, la réforme des retraites qui va être annoncée aux partenaires sociaux et aux Français dans une semaine. Est-ce que c'est un risque? Est-ce que c'est une épée de Damoclès, ce climat social qui pourrait s'enrayer?
Je pense que tout ça, c'est de la négociation. Ce qui est sûr, c'est que la France, c'est un des derniers pays en Europe où l'âge de départ à la retraite est très tôt. Donc je pense que dans la construction de l'Europe, il faut qu'on commence à européaniser nos règles. Donc je pense qu'il va y avoir une négociation qui va se faire et on va converger vers une moyenne européenne qui est entre 63 et 64, 65 ans.
Bon, vous prévoyez une année 2023 en fanfare alors?
On est très optimiste de notre côté pour 2023. Je rappelle, et je l'ai dit la dernière fois, l'euro-dollar a beaucoup baissé, ça donne énormément de poids.
Il remonte un peu, 1,07 là, hein. Bon, attention. Hein.
Ça reste encore modeste.
Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup Bruno Bouygues, PDG du groupe GIS.